16h-18h sur Europe 1.
Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
Bonjour à tous, bienvenue dans Historiquement vôtre. 2 heures pour rire en parlant d'histoire. Sur le papier, le défi est couillu. Mais à force d'obstination, on vous a, je crois, prouvé que c'était possible. Vous savez, un grand philosophe franco-luxembourgeois originaire de Lyon a dit un jour...
Vivre, à quoi ça sert?
Il n'a pas encore trouvé la réponse, mais à force d'obstination, il la trouvera un jour, j'en suis sûr. Bonjour Stéphane Bern.
Ouais. Bonjour Mathieu, bonjour à tous. Oui, chaque après-midi, on vous propose de vous promener dans l'histoire, la tête en l'air et les mains dans les poches. À la rencontre de 3 personnages très différents, mais qui ont un point commun. Aujourd'hui, vous l'avez compris, celui d'être obstiné.
Ouais, les plus belles têtes de mule de l'histoire, c'est effectivement notre programme cet après-midi. Avec qui?
Louis Pasteur d'abord. Celui qui a trouvé le vaccin contre la rage. Et vous allez voir que le chemin a été long et semé d'embûches pour en arriver là. Puis je vous parlerai de Walt Disney. Lui n'était pas dans un laboratoire, mais dans des studios de dessins animés pour donner vie à une souris devenue célèbre dans le monde entier. Et là aussi, il a fallu s'accrocher. Et de votre côté, Mathieu, vous nous parlerez d'un grand patron qui a pas mal galéré avant de connaître enfin la réussite.
C'est le moins qu'on puisse dire. On lui a dit non, ensuite on lui a dit oui, mais on lui a volé son entreprise, puis on lui a redit non. Alors il est rentré chez lui. La queue entre les jambes, ou plutôt the sausage between the legs, puisqu'il est anglais. Il est devenu homme au foyer, et c'est là qu'en passant l'aspirateur et en gueulant contre le sac qui se bouchait toujours, il a inventé l'aspirateur sans sac. Aujourd'hui, il ne doit plus trop passer l'aspirateur. Il pèse 14 milliards de dollars. Je vous raconte l'histoire de James Dyson.
Et avec nous, comme chaque jour, de sacrées têtes de mule aussi.
Oh, hein. Ça oui.
Elle nous entraîne dans l'intimité des grandes ce monde, Clémentine Portier-Kaltenbach.
Bonjour messieurs, de grandes ce monde qui n'ont pas dû très souvent passer l'aspirateur, je suppose. Et je vais vous parler notamment de 2 hommes qui ont un point commun, devinez lequel. Charles d'Angleterre et le grand dauphin, fils de Louis XIV.
Ils n'ont jamais été rois.
Alors, ils n'ont jamais été rois, exactement. Mais ils ont été les 2 héritiers du trône les mieux préparés de l'histoire des monarchies européennes. Parce que Charles, qui vient d'avoir 72 ans, il est né le 14 novembre 48, tiens d'ailleurs, un 14 novembre, comme un certain Stéphane Bern, et sa mère règne depuis 68 ans. Et le grand dauphin, fils de Louis XIV, a connu, pour ne pas dire enduré, le plus long delphinat de l'histoire de France, écrasé par un père tout-puissant. Il a passé 49 ans dans l'ombre du roi soleil, et en plus, il meurt 4 ans avant.
Son père,
c'est à ce fils, à papa, un peu particulier que je vais consacrer ma chronique du jour.
Et puis avec nous, Olivier Pouls. Olivier qui recycle, par exemple, du pain dur. Qu'est-ce que vous en faites?
Du pain perdu, évidemment.
Ah, et oui, voilà. À la recherche du pain perdu.
Je m'en vais. Je crois que c'est la Madeleine Proust, et pas le pain perdu.
L'histoire de ce plat, et puis une ou deux recettes un peu originales, parce que le pain perdu, évidemment, la recette classique, elle est sucrée, mais si je vous en propose une petite version salée, vous achetez?
Avec quoi?
Vous allez voir.
Il va nous faire un croque-monsieur, c'est ça?
Enfin, Stéphane, il est notre dandy bobo gaucho décroissant préféré. Très vite, à son contact, après quelques chroniques lunaires sur les sapins parfumés et l'épilation pubienne, vous vous êtes posé la question...
Son apparente beauté cache-t-elle un terrible vice?
Et oui, David Castello-Lopez est comme mon appart. Il a beaucoup de charme, mais plus on le connaît, plus on détecte les vices cachés. Aujourd'hui, de quelle invention nous racontez-vous l'histoire? Et surtout, quelle nouvelle obsession trahira ce choix de sujet?
Oui, alors justement, c'est un sujet où il va falloir me suivre un petit peu. C'est un son, on peut peut-être l'écouter. Ce son-là, ce son qu'on voit partout dans les chansons des années 80 en particulier, je vous le prouverai, et qui a été repris sous différentes formes, mais il y a une origine, et vous allez voir, ça va être passionnant, je l'espère en tout cas.
Et ça a un nom?
Ça s'appelle l'Orchestra Hit. Le coup d'orchestre.
À ce stade, c'est même plus du vice caché, c'est du vice apparent. Bref, enfin, on testera nos connaissances historiques avec Bern to be Alive, ce quiz redoutable qui vous permet chaque jour, vers 5h-10, de découvrir la vraie culture générale de Stéphane Bern. C'est pas triste, mais
enfin,
tout de suite...
ces derniers jours...
Oui, c'est vrai que ces derniers jours, vous êtes bon. Hein.
Oui.
Vous êtes bon et sans tricherie, en plus. Oui, c'est tout
non,
à votre honneur.
Jamais.
Tout de suite... Non, ça, c'est faux. Tout de suite, découvrons notre première tête de mule du jour. Stéphane Bern vous raconte l'histoire de Louis Pasteur.
Europe 1. 16h-18h, historiquement vôtre. Stéphane Bern et Mathieu Noël. Le récit.
Si Fleming avait sa place dans notre émission sur le thème du hasard, ce n'est pas le cas de Louis Pasteur, l'inventeur du vaccin contre la rage. Pour lui, le hasard ne favorise l'invention que pour des esprits préparés aux découvertes par de patientes études et de persévérants efforts. Et vous allez voir que Pasteur a persévéré malgré les nombreux drames qui ont émaillé son destin si particulier. Louis Pasteur voit le jour le 27 décembre 1822 à Dole, dans le Jura. Dans une modeste famille de tanneurs, le petit Louis montre un talent précoce pour...
Pour la chimie, évidemment.
Ah, pas du tout.
Ah non ?
Non, c'est un artiste en herbe. Il a un don pour le pastel et la lithographie, avec un grand sens de l'observation. Il croque son entourage à Arbois, où sa famille s'est installée. Puis, troque finalement son parcours artistique pour une carrière scientifique.
Voilà. Tant mieux pour nous.
À 21 ans, il arrive quatrième au concours d'entrée de l'école normale supérieure de la rue d'Ulm. Il intègre la section physique et chimie, puis devient agrégé préparateur dans le laboratoire d'Antoine Jérôme Ballard. Il passe ensuite son doctorat en sciences et résout un mystère scientifique, la dissymétrie des molécules, bientôt appelée chiralité moléculaire.
Vous nous réexpliquez le principe, Stéphane.
Oui, bien sûr, j'ouvre Wikipédia. En chimie, un composé est dit chiral s'il n'est pas superposable à son image dans un miroir plan. Il existe un certain nombre de raisons pour lesquelles une molécule peut être chirale. La présence d'un ou plusieurs centres asymétriques, une forme en hélice, un plan de chiralité... Vous n'avez rien compris. Ben, c'est normal.
J'ai rien compris. Je me sens très bête à l'issue de cet exposé,
non,
Stéphane.
Moi non plus, j'ai rien compris. Même pas de ce que je vous disais. Quoi qu'il en soit, grâce à ce succès, Pasteur obtient un poste à l'université de Strasbourg. Il épouse 4 mois plus tard la fille du recteur de l'université, Marie Laurent, qui lui donnera 5 enfants. Elle a été le meilleur collaborateur de Louis Pasteur, dira Émile Roux, travaillant lui-même aux côtés du scientifique. En 1853, Pasteur est fait chevalier de la Légion d'honneur avant d'être nommé doyen de la faculté des sciences de Lille à 32 ans. Alors que les producteurs de nombreuses distilleries de la région sont inquiets de la qualité de leur alcool de betterave, Pasteur commence ses travaux sur la fermentation. Il n'est plus seulement chimiste, il devient biologiste. Mais un drame survient. Sa fille Jeanne succombe d'une fièvre typhoïde à l'âge de 9 ans. Pasteur est dévasté. Mais poursuit ses recherches. Il met toute l'énergie qui lui reste dans son travail. Par les expériences les plus variées, le chercheur démontre que les micro-organismes, bientôt appelés microbes, sont partout. Dans l'eau, dans l'air, sur les objets, sur la peau. Dans des luttes mémorables, il donne tort à de célèbres biologistes comme Félix Pouchet. Ce fervent défenseur de la théorie de la génération spontanée affirme que les micro-organismes peuvent être produits par des matières mortes. Pasteur l'a bien vu en travaillant sur la fermentation. C'est la vie qui donne la vie. L'Académie des sciences lui donne raison. Au milieu du 19e siècle, la viticulture, fleuron de l'économie française, se porte mal. La qualité de la production est mauvaise et cela risque de nuire aux exportations. Ce sont les Anglais, avec qui Napoléon III a signé des accords commerciaux, qui ne vont pas être contents. L'empereur appelle Pasteur à la rescousse. C'est dans un laboratoire aménagé dans une ancienne salle de café à Arbois, au plus près des producteurs, que Pasteur mène ses recherches sur les vins des caves de la région. Pour empêcher la multiplication des germes nuisibles à la qualité du vin, il préconise une méthode de chauffage, suivie d'un refroidissement brusque, c'est la pasteurisation, et il fait breveter sa méthode. Quelques mois plus tard, au succès se mêlent de nouveaux drames. Pasteur perd sa fille Camille, 2 ans, des suites d'une tumeur au foie. L'année suivante, la fièvre typhoïde qui avait emporté sa première fille lui prend aussi Cécile, 12 ans et demi. Pasteur a perdu 3 de ses enfants. En 1867, il reçoit le Grand Prix de l'Exposition universelle pour ses études sur le vin. Pasteur démissionne cette même année de l'École normale supérieure, où on le juge un peu trop autoritaire. S'il fait avancer les recherches sur le vivant, la vie ne lui fait toujours pas de cadeau. À 46 ans, Pasteur est victime d'un accident vasculaire cérébral qui le rend hémiplégique. Baisser les bras? Jamais. Pasteur s'intéresse aux maladies infectieuses, découvrant successivement le staphylocoque, le streptocoque, le pneumocoque. Il démontre avec son rival, Robert Koch, le rôle des microbes dans les maladies contagieuses. Pasteur prend alors conscience de l'importance de l'hygiène pour combattre les microbes. Promoteur de l'asepsie, il jette les bases de l'hygiène moderne. Propreté des mains, stérilisation des linges ou encore flambage des instruments. Pasteur s'occupe ensuite des maladies animales. Après avoir sauvé les élevages de vers à soie, il s'intéresse de près au choléra des poules, au rouget du porc et au charbon des moutons. Il met en application la découverte d'Edward Jenner. 80 ans plus tôt, ce médecin de campagne britannique avait constaté qu'inoculer à un enfant une maladie bénigne des vaches, la vaccine, protégeait contre la variole. Pasteur poursuit ce travail et découvre alors qu'injecter un microbe atténué d'une maladie animale immunise contre cette même maladie. Au printemps 1881, devant la presse et un public prestigieux, Pasteur vaccine 25 moutons à Pouilly-le-Fort, en Seine-et-Marne. Un mois plus tard, on inocule la maladie du charbon à 50 moutons. Les 25 vaccinés survivent, les 25 autres meurent. C'est le triomphe de la vaccination et de Pasteur. Le 8 décembre, il est élu à l'Académie française. Et la rage dans tout ça ? Il a celle de vivre quoi qu'il lui arrive. Et Pasteur poursuit ses recherches sans relâche, jusqu'à trouver effectivement celle qui lui est à jamais associée, le vaccin contre la rage. Elle est l'une des maladies les plus mystérieuses du 19e siècle. Gare à la morsure d'un chien enragé. Il faut agir pendant la période d'incubation, avant que le virus n'atteigne le cerveau et ne le tue. Les manipulations de Pasteur sur des chiens et des lapins sont concluantes. Il trouve un vaccin. Mais il redoute de passer aux essais chez l'homme. Le matin du 6 juillet 1885, un garçon de 9 ans, Joseph Meister, arrive d'Alsace dans un état grave. Deux jours plus tôt, il a été mordu 14 fois par un chien enragé. Il faut agir vite. Malgré la défiance de la communauté médicale, Pasteur vainc ses ultimes hésitations et passe à l'action. N'étant pas médecin, il confie au docteur Jacques-Joseph Grandcher le soin d'inoculer à l'enfant le traitement. En 10 jours, ce dernier reçoit 13 injections. Et ça marche ! Joseph Meister, premier vacciné de l'histoire, ne développera jamais la rage. Bientôt, une multitude de mordus du monde entier se présente à son laboratoire de la rue d'Ulm. L'affluence est telle que Pasteur décide de fonder un centre dédié à la vaccination contre la rage, mais aussi à la recherche et à l'enseignement. L'Académie des sciences lance une souscription internationale qui récolte 2 millions de francs. Même le tsar de Russie, Alexandre III, met la main au porte-monnaie. Car comme l'affirmait Pasteur, la science n'a pas de patrie. Le 14 novembre 1888...
Les 14 novembre, c'est un jour important. C'est votre naissance, Stéphane ?
C'est une journée historique.
C'est un jour pivot dans plein de domaines.
Oui. Eh bien, en 1888, ce jour-là, l'Institut Pasteur est inauguré. Pasteur le dirigera jusqu'à sa mort, 7 ans plus tard. Des funérailles nationales lui seront organisées. Une immense foule qui le considère comme le plus grand bienfaiteur de l'humanité y assiste aux côtés du président Félix Faure devant la cathédrale Notre-Dame de Paris drapée de noir pour l'occasion. Louis Pasteur devait reposer au Panthéon, mais son épouse insiste pour qu'il soit inhumé dans son institut. Un lieu dans lequel aujourd'hui encore des chercheurs poursuivent les travaux, toujours avec la même obstination que celle qui a guidé Pasteur tout au long de sa vie. Chercher, toujours, trouver, dans le meilleur des cas, et ne jamais s'arrêter, quoi qu'il arrive, quoi qu'il en soit.
Europe 1, historiquement vôtre.
Pour continuer à parler de Pasteur, nous sommes non pas avec un chercheur, mais avec un trouveur de bons mots, l'écrivain et académicien Éric Orsenna. Bonjour Éric.
Mais bonjour, bonjour à vous deux.
Bonjour Éric Orsenna. Vous avez publié il y a quelques années « La vie, la mort, la vie, Louis Pasteur » chez Fayard. Si vous lui avez consacré une biographie, c'est en partie parce que vous occupez à l'Académie française le fauteuil numéro 17, celui de Louis Pasteur. Bon, vous n'habitez pas encore l'appartement qu'on peut visiter toujours à l'Institut Pasteur. Non, mais c'est très intéressant.
Vraiment, il a été laissé en état.
Il a été laissé en état. C'est formidable d'aller à l'Institut Pasteur. Ça procure quelle sensation la première fois qu'on s'assoit sur le fauteuil 17? C'était en 1998.
Vous savez, un sentiment d'illégitimité complète. D'autant plus qu'à ma droite, il y avait François Jacob, le prix Nobel, et il m'engueulait en disant « Comment oses-tu poser tes fesses sur ce fauteuil de Pasteur ?» Alors que tu as deux raisons de ne pas avoir le droit d'y être. Tu es économiste, c'est-à-dire ignorant, et romancier, c'est-à-dire un menteur.
Ça fait beaucoup. Qu'est-ce qui vous a le plus séduit chez Pasteur quand vous avez décidé de lui consacrer un livre? Est-ce que vous saviez tout ce qu'a raconté Stéphane, vous le saviez, vous avez découvert des choses en chemin?
Alors, il se trouve qu'enfant, j'habitais au coin du boulevard Pasteur et de la rue de Vaugirard, et je passais tous les jours devant l'Institut, et Pasteur et ma mère me disaient, c'est là le lieu des savants, et c'est là où on explique la vie. Et comme moi, je suis passionné de la vie, eh bien, je suis plongé dans cet homme qui a expliqué les mécanismes de la vie, parce que auparavant, la décrivait la vie. Lui, il a expliqué comment ça marchait, pour le pire et pour le meilleur.
Louis Pasteur, c'était pas ce qu'on appelle un bon élève. Tout lui réussit pas tout de suite, Éric. D'où lui vient son goût de l'effort, cette faculté à jamais rien lâcher?
D'abord, il prend son temps. C'est vrai qu'il n'est pas brillant. mais il est complètement obstiné. Donc c'est exactement la justification de votre thème. C'est-à-dire, petit à petit, il avance, et comme vous le dites très bien, il ne lâche jamais rien. Ce qui est nécessaire dans une carrière scientifique, parce que on avance, et puis ça marche pas. Et puis à un moment, ça marche.
Mais ce qui est drôle, Eric Orsena, c'est que Pasteur explore un univers qui n'est pas le sien. Comment passe-t-il d'une prédisposition artistique, parce qu'il était doué particulièrement pour le pastel, à une carrière scientifique aussi brillante? C'est-à-dire qu'il a découvert plus tard qu'il avait des qualités qui font de lui un scientifique hors du commun?
Il est artiste, mais il est artiste, pas forcément créateur. C'est-à-dire qu'il décrit, il observe, il a un œil incroyable. Tous ceux qu'il dessine, ceux et celles qui dessinent sont là. À 16 ans, il fait le portrait. Mmh. Et alors, ce qui est fascinant, c'est que dans un premier temps de sa vie, enfin jusqu'à l'adolescence, il fait le portrait et ensuite il va expliquer. C'est ça qui m'a fasciné.
Et s'il y a une chose qui lui tenait à cœur, d'après ce que j'ai compris, c'était une passion maladive pour l'hygiène, un moyen essentiel, on le sait maintenant, de combattre les microbes. À l'époque, c'est nouveau, c'est-à-dire qu'il est le premier hygiéniste. À l'époque, on se lave pas les mains. Comment ça se passe?
Alors, si je puis me permettre, c'est une passion anti-maladive.
Oui, bien sûr, c'est mal formulé, si vous voulez, mais c'est-à-dire qu'il était obsédé, c'était une obsession, en tout cas.
C'est-à-dire qu'il avait déjà expérimenté et appliqué à lui-même tous les gestes barrières, c'est-à-dire qu'il ne serrait jamais la main. Alors, c'était pas un personnage extraordinairement chaleureux, très, très, très retenu, très tout ça, mais donc, vous voyez qu'on est exactement dans l'actualité.
Mais oui, complètement.
C'est pour le coronavirus, il est vraiment... c'est lui qui a imposé les règles d'hygiène. On sait maintenant que même les microbes sont à la surface des meubles, des objets, de la peau, de tout.
Ils sont partout. Et ce qui est très, très frappant, c'est que on voit la vie, il explique la vie comme une sorte de grande chaîne. Et ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que depuis l'élément le plus infime du vivant, c'est-à-dire le virus qui est rien, qui est une sorte de code, qui a besoin d'une cellule, d'envahir une cellule pour se répliquer, pour se multiplier, jusqu'à nous, les êtres les plus sophistiqués, surtout Stéphane Bern, eh bien, on s'aperçoit que on est sur le même bateau, dans la même chaîne, et que le plus infime peut mettre à genoux le plus sophistiqué, avoir montré que ces micro-organismes sont au cœur de tout le vivant et de tous les êtres humains, et aussi des végétaux. Il n'y a pas de différence. C'est pour ça que cette notion qu'on développe maintenant de la santé unique, si l'environnement va mal, les végétaux vont mal. Si les végétaux vont mal, les animaux vont mal. Et si les animaux vont mal, eh bien, les êtres humains qui font partie du règne animal vont mal aussi. Vous voyez, c'est cette solidarité, cette interdépendance qui est absolument fascinante.
En tout cas, on retrouve chez vous aussi le grand moraliste que vous êtes. Et merci Eric Orsena. Alors, je rappelle évidemment le titre de votre ouvrage consacré à Pasteur, La vie, la mort, la vie, Louis Pasteur, paru chez Fayard. Et parce que, évidemment, il y a toujours un livre d'Eric Orsena qui sort.
Ah oui, je ne sais pas comment il fait.
Mais il écrit, vous savez. Il suffit d'écrire et puis après on publie. Vous venez de publier.
Et puis d'avoir des amis, vous voyez, parce que j'ai cet immense honneur d'être ambassadeur de l'Institut Pasteur, donc je suis en lien avec tous ces chercheurs. Imaginez, dans 26 pays, et je voudrais saluer quand même le vaccin, parce qu'il y a des gens qui disent le vaccin, alors je dis pas que tous les vaccins sont aussi efficaces, qu'il n'y a pas de temps en temps des effets secondaires, mais depuis l'histoire des soins, jamais aucun soin n'a été aussi efficace qu'un vaccin.
Exactement. Moi, je me fais vacciner. Dès que vous voulez, je passe à l'institut, vous me piquez.
Je vous pique.
Non, mais pas la piqûre létale, juste le vaccin contre le coronavirus.
Surtout pas vous endormir, parce que ce qu'il y a avec Stéphane à mon misérable niveau, mais on est, lui et moi, passionnés par le patrimoine. Oui. Et les pierres aussi ont des vies, parce que derrière les pierres, il y a des êtres humains.
Exactement.
Eh bien, derrière la vie, il y a des chercheurs. Et c'est cette
faut rendre hommage absolument à tous les chercheurs. Et je rappelle que depuis 2016, Eric Orsena est ambassadeur de l'Institut Pasteur. Et puis, évidemment, vous pouvez trouver dans les librairies le nouveau livre « Cochon, voyage au pays du vivant », une coédition Fayard et Stock. Vous poursuivez le voyage au pays de la mondialisation avec l'animal le plus proche de l'homme. Et oui, c'est le cochon. Merci Eric Orsena d'avoir été avec nous.
Mais merci à vous deux. Merci.
Ici Europe 1. 16h-18h sur Europe 1.
Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
Tous les après-midi, on l'attend impatiemment. C'est Clémentine Portier-Kaltenbach qui nous entraîne dans l'intimité de l'histoire. Et aujourd'hui, Clémentine, de la patience, ben, ceux dont vous allez nous parler en ont vraiment fait preuve.
Oui, alors c'était un homme assez discret, le grand dauphin. Comment vivre près de 50 ans dans l'ombre du roi soleil, hein. En plus, à une époque où la psychanalyse n'existe pas, on ne peut pas les s'allonger en disant tout ça, c'est la faute de mon papa. En tout cas, le malheureux, ni son père ni personne ne porta jamais grand intérêt à ce malheureux garçon, peut-être même pas lui-même, parce que en jugé par les quelques lettres qu'on a conservées de lui, car son père a tout détruit à sa mort, bah, lui-même ne se prenait pas vraiment en grande considération. D'abord, on a confié son éducation quand il avait 7 ans à un certain Charles de Sainte-Maure, le duc de Montausier. C'est un ancien soldat, intègre, mais bien trop sévère. Et on pense d'ailleurs que c'est cet homme-là qui a servi de modèle au personnage d'Alceste dans Le Misanthrope de Molière. Vous voyez, il n'a pas fait l'école du cirque. Hein. Joyeuse compagnie qu'un tel triste sire pour un petit garçon. Et d'autant que si l'enfant oublie un malheureux mot de sa prière le soir, Monsieur de Montausier se jette sur lui à coups de poing de toute sa force. Hein. Et tout est à l'avenant dans cette pédagogie faite de férules et d'étrivières. Hein. Et à ce moment-là, ce malheureux prince malmené ne voudra bientôt plus rien savoir. Il refusera d'apprendre. Il sent se butera et deviendra muet et sans manière. Voilà, c'est un pauvre garçon timide, d'un tempérament doux, lymphatique, ne sait que balbutier lorsqu'il est mis en présence de son père. Il a une éducation, je le disais, bien trop rigide, qui l'empêche de s'épanouir. Alors il se remplit gloutonnement. Il mange tant et plus avec les années et bien il acquiert une sorte de cette espèce d'indolence propre à l'adolescent obèse qu'il est devenu avec le temps. Et oui, c'est le grand dauphin.
C'est le gros dauphin.
Le gros dauphin, le fils du roi soleil, le gros dauphin. Et dans ses mémoires, Saint-Simon, hein, qui ne fait pas bon avoir pour ennemi, l'étrille littéralement ce malheureux dauphin et nous le présente comme noyé dans la graisse, l'apathie et les ténèbres. Ah, vraiment, la barque est trop chargée pour ce bon gros garçon, quand les vrais coupables de sa mollesse, de sa bêtise, c'est d'abord le duc de Montausier à qui on l'a confié, et le roi lui-même, loti d'un père tout-puissant, écrasant, et d'un gouverneur qui le morigène sans cesse et le moleste à l'occasion. Comment voulez-vous qu'il puisse être bien dans sa peau, ce pauvre gamin? Alors, on lui donne d'exceptionnels éducateurs, comme Bossuet, par exemple. Mais ça n'y fera rien. Il semble avoir un esprit médiocre, il ne manifeste aucun goût, ni pour la lecture, ni pour l'étude. Mais enfin quand même, en 1691, comme il a 30 ans, il serait peut-être temps de l'intéresser un peu aux choses de l'État. Donc son papa, Louis XIV, le fait venir régulièrement au conseil, mais enfin, le dauphin s'y ennuie à mourir. Il n'ose jamais poser de questions, de peur de se faire rabrouer par son père, il ne donne jamais son sentiment sur rien. Le conseil terminé, écrit André Castelot, il demeurait assis de longues heures, en tapotant le bout de ses souliers du bout de sa canne. Et plus loin, il ajoute « L'état de nullité où le maintenait Louis XIV fut sa seule excuse. » Donc toute sa vie, ce grand dauphin va vivre dans la dépendance de son père. Il n'a le droit ni de s'exprimer, ni d'aller et venir comme bon lui semble. Il est trop proche du trône, il ne peut prétendre à aucun emploi. Alors que ses demi-frères, son grand maître de l'artillerie, amiral de France, lui n'a pas de fonction précise, et aucun rôle à jouer. Il ne peut distribuer aucune charge, aucun privilège, et toutes ses dépenses sont contrôlées.
Et on l'envoie pas à la guerre?
Non, bien sûr que non, on va pas l'envoyer à la guerre, manquerait plus que ça, c'est le fils aîné, on va pas l'emmener se faire zigouiller à la guerre, ou même si on lui envoyait, on le mettrait, il serait au loin avec sa longue vue à regarder ce qui se passe. Bon, en plus, il possède rien en propre. Mais alors, il y a quand même un point, un seul, sur lequel Louis XIV reconnaît son fils dans ce gros nounours emprunté. Comme lui, le dauphin aime les femmes et comme lui, un coureur de jupons. J'allais Alors, après la mort de son épouse, hein, le grand dauphin, il était marié avec Marie-Victoire de Bavière et il s'entiche d'une certaine Émilie Jolie de Chouin. La demoiselle portait bien mal son nom parce qu'au dire de Saint-Simon, elle était la femme la plus moche de la cour. Et la princesse Palatine en brosse un portrait sans appel, petite.
Qui elle-même était bien placée pour juger. Voilà,
elle a dû être belle dans sa jeunesse, elle est devenue rondouillarde. Hein. Moi, je compatis, je sais ce que c'est. Hein. Alors, petite, là, je suis un petite avec de courtes jambes, un visage rond, un nez court et relevé, une grande bouche remplie de dents pourries qui répandait une telle puanteur qu'on pouvait la sentir à l'autre bout de la chambre. Et Saint-Simon en remet une couche, c'était une grosse grosse fille, écrasée, brune, laide, camarde, avec un esprit, l'esprit quand même, et un esprit d'intrigue et de manège. Je rappelle au passage que camarde signifie qu'il a le nez plat. Et si on a, c'est comme ça qu'on appelle la mort, la camarde, parce qu'un squelette n'a pas de nez. D'où la chanson de Brassens.
La camarde avec un nez.
La camarde qui ne m'a jamais pardonné d'avoir semé des fleurs dans les trous de son nez. La camarde, c'est la mort. Bon, passons, parenthèse. Alors, voir la chouin, c'était son surnom à la cour, on l'appelait comme ça, avec un petit peu de mépris. Eh bien, c'était la seule chose qui parvenait à faire sortir le grand dauphin de sa torpeur. Et Louis XIV était opposé à cette liaison parce qu'il l'a trouvée hideuse, la chouin. Et comme il aimait beaucoup les femmes, il digérait pas du tout que son fils s'amouracha d'un tel laidron. C'était pas possible. Indigné par cette injuste immission paternelle dans son intimité, le grand dauphin osa aller parler en face pour la première et la seule fois de sa vie à son paternel et lui désobéir puisque, toujours selon Saint-Simon, il épousa secrètement sa bien-aimée chouin vers 1695. En tout cas, le grand dauphin, fils de Louis XIV, et de nos jours Charles d'Angleterre, hein, outre qu'ils attendirent ou attendent toujours pour Charles au pied du trône, hein, ils ont quand même pour autre point commun de s'être retrouvés veufs et d'avoir pu, sur le tard, de s'être entêtés à épouser les femmes qu'ils aimaient, fût-ce un laidron. Hein. Alors, le grand dauphin de France, je le disais tout à l'heure, il a quand même passé 50 ans dans l'ombre de son père et il meurt 4 ans avec lui. Voilà, alors, moi je dis repose en paix, brave Louis de France, grand dauphin, on espère qu'au ciel, tu as retrouvé tous tes semblables, ces malheureux princes héritiers qui vécurent sous le joug de trop grands rois auxquels ils ne succédèrent jamais. Fatalitas.
C'est beau, c'est de vous ?
Oui.
Merci Clémentine.
Il n'y a pas de quoi fouetter un chat non plus.
À suivre. Quand arrive cette séquence, les amis, Stéphane me regarde toujours avec des grands yeux tristes, détaillant.
Oh, c'est moi qui vous regarde avec des grands yeux tristes en ce moment.
J'ai beaucoup gagné ces derniers temps, mais là, je crois que je me suis
laissé. Mais je vous trouve un peu arrogant, là. Il n'y a pas le triomphe modeste.
Avant, c'est vrai que dernièrement, vous gagnez, mais avant, comme vous avez enchaîné les défaites, souvent, vous me disiez...
Mais pourquoi ?
Mais c'est comme ça, le quiz dans un petit instant, Stéphane.
16h-18h sur Europe 1.
Historiquement vôtre.
Bon, Clémentine, loin de moi l'idée de jouer les oiseaux de mauvais augure, mais les chiffres sont quand même là. Avec un total de 69 défaites en 77 participations au quiz, Clémentine, vous filez un bien mauvais coton et si vous continuez sur cette pente, vous finirez certainement...
Dans l'alcool,
non.
La drogue
non.
Et la débauche.
Pas forcément.
Je suis déjà 69 défaites,
non, mais ne le croyez pas. C'est lui qui recompte pour Trump.
C'est moi, dans les états clés. En Géorgie, c'est moi.
Vous voyez bien, il dit n'importe quoi.
Jour A. Burn to be alive. Non, c'est vrai que ces derniers temps, Stéphane, vous avez marqué pas mal de points.
Oui, mais ne remettez pas le...
Mais si, je remets votre titre en jeu, justement.
Ah question, oui, mon titre en jeu, oui.
Question 1 pour vous. Juin 1936, le Front Populaire. Déjà, ça commence mal pour vous. La loi votée instaurant les congés payés a été votée à l'unanimité. Attention, je répète, car tous les mots sont importants. Juin 1936, le Front Populaire, la loi votée instaurant les congés payés, a été votée à l'unanimité. Vrai ou faux ?
Faux.
Vous avez perdu.
J'aime bien une réponse plus oui, comme que ça, tout de suite.
Il me dit, non, il me dit tous les mots comptent. Je me dis, bon, donc il y a un piège. Ok, piège, non.
Moi, je suis basique. C'était un bon raisonnement, mais vous auriez gagné à réfléchir plus quand même. Un mois après son arrivée au pouvoir, Léon Blum généralise les congés payés. Oui, 592 voix sur 592. Attention, je répète car tous les mots sont importants. Un mois après son arrivée au pouvoir, Léon Blum généralise les congés payés. 592 voix sur 592. Nous allons faire un piège d'un niveau de vice jamais atteint dans ce quiz, puisqu'effectivement, tout était absolument vrai dans cette phrase. C'est ça, Stéphane. Et vous avez imaginé forcément pour qu'un truc si con soit dit, c'est qu'il y ait un petit piège dedans, une virgule.
Exactement.
Exactement, le raisonnement était le bon. Zéro point pour vous.
Dévoulonnons la statue du commandeur.
Clémentine Portier-Keltenbach. Marignan.
515.
Bonne réponse, hein, pour... Non, je plaisante, ce n'est pas la question. Restons en France. 1936, à cette époque, il y avait des partis politiques français qui ont disparu depuis, comme par exemple les Républicains Socialistes du Centre. Vrai ou faux ?
Oui, je crois ça volontiers aussi. Oui.
Voilà. Vous le croyez ou
Oui, parce que sous la 3e et 4e République, qui sont, par excellence, les gouvernements de partis, ils se créent ils se créent de nombreux partis politiques. Et puis, le PC, né en 1920, se scinde. Il y a les radicaux, il y a les socialistes, il y a la SFIO, il y a les communistes. Alors, refelemeleux, là, le nom de votre parti.
Les Républicains Socialistes du Centre.
Oui. Oui, bah, je dis oui.
Vous avez perdu.
Ah, perdu, bizarre.
Mais de peu. Oui. C'était le Parti Républicain Socialiste qui existait. Ils étaient réformistes, mais non marxistes. Ils étaient situés entre la SFIO et le Parti Radical Socialiste. Pour résumer, pour Stéphane Bern, c'était des cocos. Question numéro 3, Stéphane. En 1930, on a découvert quelque chose. La planète Pluton. Puis en août 2006, on a finalement décidé que ce n'était pas une planète. Entre le temps de sa découverte et le temps de sa déclassification, Pluton n'a même pas eu le temps de faire le tour du Soleil. Vrai ou faux ?
Ça, c'est de l'histoire aussi.
C'est de l'histoire, c'est l'histoire des astres, l'histoire effectivement de notre système solaire. C'est notre histoire également.
L'histoire des astres.
1930 et 2006.
Et 2006.
Et durant cette période de temps, eh bien, figurez-vous
76 ans.
Que Pluton n'aurait pas eu le temps de faire le tour du Soleil. Mmh. Est-ce vrai ou est-ce faux ?
Bah, c'est-à-dire, si on a préféré la disqualifier avant qu'elle ait fini son tour...
Parce qu'elle est un peu lente aussi.
Oui.
Hein. Elle lambine.
Alors,
qu'est-ce que c'est que cette planète qui traîne ?
C'est pas du tout historique, mais vous êtes quiz, c'est astronomique. Eh bien, je vais faire une réponse astronomique. Je dis, oui, effectivement, elle n'a pas eu le temps. Elle aurait bien aimé,
mais on ne lui a pas laissé le temps
de finir le tour du Soleil.
Elle aurait bien aimé, elle le dit dans sa bio d'ailleurs. Et...
Vous avez...
Effectivement, c'est vrai, Pluton a besoin de 90 588 jours pour faire le tour complet autour du Soleil, soit 248 années. Ah. Certains scientifiques américains militent pour qu'on requalifie Pluton comme planète. Et il faut dire que c'était la seule et unique fois qu'un Américain découvrait une planète.
Oui, je vous propose d'adhérer à l'association.
Sauvons Pluton. Sauvons Pluton. C'est vraiment, à mon avis, un combat d'actualité. Question numéro 4 pour vous, Clémentine. Je dirais une question pour sauver l'honneur. Fin du XVIe siècle, Shakespeare écrit la pièce Le Marchand de Venise. Particularité, c'est la première fois que le prénom Jessica apparaît à l'écrit dans l'histoire de l'humanité. Vrai ou faux ?
Jessica ?
Ah, des Jessica, moi j'en connais deux, trois. Hein.
Effectivement,
je dis rien.
J'entends pas de Jessica dans la Bible spécialement.
Peu de Jessica au Moyen-Âge ?
Écoutez, pourquoi pas, puisqu'après tout, il y a bien certainement des auteurs qui inventent des prénoms. Je réponds oui.
Vous avez...
Elle a gagné, c'est la bonne réponse qui vous
et
permet d'atteindre
l'égalité. C'est chouette,
je vous raconte l'histoire. Jessica vient vraisemblablement de l'hébreu Yiska et de Jessé, le père de David, dans l'Ancien Testament. Mais la première fois qu'apparaît une Jessica, c'est donc dans la pièce de Shakespeare, Le Marchand de Venise. Et la dernière fois qu'une Jessica est apparue, c'était dans Les Marseillais à Mykonos sur W9. Question numéro 5. Pour vous deux, trois propositions, c'est la question de rapidité. Attention, on m'écoute bien jusqu'au bout, avant de donner son choix. Durant le XXe siècle, l'armée française pratiquait le BMC, comprenez le bordel militaire de campagne. À savoir un dispositif plus ou moins en partenariat avec les autorités pour faciliter l'accès des soldats à des prostituées. Mmh. En quelle année a fermé le dernier BMC sur le sol français ? Trois propositions. En 1970 sous Pompidou, en 1978 sous Giscard ou en 1995 sous Chirac ?
Extraordinaire. Moi, je dirais Pompidou, oui.
Alors, et non, les amis, vous avez répondu très très vite. Oui. Ça a fusé. Mais ce n'est pas en 70 sous Pompidou.
Bah donc
Mais tu sais pourquoi ? Parce que ça ne doit pas être sur le territoire français, c'est pas dans l'Hexagone.
Ah oui,
ça doit être dans les Dom-Tom en Guyane ou je sais pas où. Parce que comme les maisons closes sont fermées en 48, il ne peut pas y avoir de BMC sur le sol français.
C'est aussi la France. C'est pas en 78 non plus sous Giscard, c'est en 1995 que le dernier bordel.
Ah bon ?
Effectivement, le dernier bordel militaire de campagne ferme, c'était en Guyane.
Voilà.
Et car vous avez donné cette information décisive, alors que Stéphane, lui, avait déjà baissé les bras, abandonné toute forme d'espoir dans le quiz, eh bien c'est vous qui remportez le quiz.
Ah,
ma chère Clémentine, c'est le retour
enfin
de la victoire pour vous sur
c'est
le fil.
C'est la fin d'un cycle noir.
16h-18h sur Europe 1,
Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
Vous connaissez désormais la recette du cocktail historiquement vôtre, ce cocktail qui met chaque après-midi Stéphane Bern dans un sale état. Ce mélange qui monte à la tête de Stéphane, c'est la rencontre de la bonne humeur et de l'histoire, de l'érudition et de la déconne autour chaque après-midi de trois personnages qu'on a sortis du frigo, sauf le dernier qui est vivant.
Oui, aujourd'hui Mathieu, trois obstinés. Ils n'ont rien lâché, ils ont eu raison. On a parlé de Louis Pasteur, je vais vous raconter le parcours chaotique de Walt Disney qui a dû se battre lui aussi pour imposer son univers. Et quant à vous Mathieu, vous évoquerez le vivant d'étape.
Oui, vivant et milliardaire, c'est une belle combinaison. Un type qui pourtant s'est pris plus de vestes professionnellement que David Castello-Lopez sentimentalement, ce qui vous donne une idée de sa persévérance, qu'il s'agit de James Dyson, le vilain petit canard de l'électroménager devenu le roi des aspirateurs.
Sans oublier deux obstinés dans le studio.
Ben oui.
Nos chroniqueurs, Olivier Pouls et David Castello-Lopez. Alors Olivier, on va parler de ce qui n'est pas perdu pour tout le monde.
Non, le pain. Recyclez vos vieux quignons
et vieux
morceaux.
Mais ça, c'est vieux comme le monde, le pain perdu, j'imagine. C'est la plus vieille recette dont vous allez nous parler.
Ah, c'est pas d'hier, ça je vous le confirme. Mais vous allez voir qu'au fil du temps et des années, elle a évolué,
oui,
la recette un peu quand même.
Oui, maintenant, quand on est bobo, on le fait avec de la brioche. Alors que c'est vraiment l'inverse de l'idée du pain perdu. C'est-à-dire qu'on prend du pain qui est raciste. Oui. Sinon,
et
c'est
en plus, si vous avez bien écouté, il veut nous le faire salé.
En plus, vous allez voir qu'on
peut en plus la réadapter.
Ça s'appelle du bruschetta.
Non, pas du tout.
Bruschetta. Il est déjà en Toscane. Il est déjà l'été prochain, Stéphane. Ah, draconien, Stéphane, ça c'est votre mot de la fin aujourd'hui.
Oui.
D'où ça vient, draconien?
Ah, dracon.
Est-ce que ça vient de dragon?
Vous n'avez pas connu
un
nain?
Je n'ai pas connu.
Bon,
écoutez, un ami à vous?
Oui, beaucoup d'amis à moi. Vous allez voir, c'était très dur. Il était très très dur.
C'est mystérieux pour moi. Sans oublier le personnage le plus fascinant de la bande, dont je ne peux pas m'empêcher de me demander où vous l'avez trouvé, Stéphane.
Dans l'ombre d'une alcôve.
Oui, non, c'est façon de parler. Je veux dire que vous l'avez trouvé professionnellement. David Castello-Lopez est avec nous. Oui. Chaque jour, l'origine d'une invention. Et alors aujourd'hui, elle n'est pas piquée d'hanneton, celle-là.
Elle n'est pas piquée d'hanneton, c'est-à-dire que c'est les origines d'un son qu'on appelle l'orchestra hit. Donc ça va rien vous dire, mais peut-être que si je vous le fais écouter, oui.
Pas plus que tout à l'heure. Si, c'est dans Thriller de Michael Jackson.
On s'en approche exactement.
C'est les années 80.
Mais c'est les années 80 et on va en parler tout à l'heure.
Vous n'écoutez déjà plus de musique dans les années 80, Stéphane?
Ah si, je continue.
Musique de chambre.
Ah bah, en chambre, oui.
On verra ça tout à l'heure, mais d'abord, plongeons dans notre deuxième récit du jour. Stéphane Bern, vous parlez d'un obstiné de première classe, un
Walt
certain
Disney.
Walt Disney.
Europe 1, 16h, 18h, historiquement vôtre. Stéphane Bern et Mathieu Noël. Le récit.
S'il avait l'habitude de raconter des histoires, aujourd'hui c'est nous qui racontons la sienne. Il était une fois Walt Disney, un personnage qui a trouvé le secret du bonheur, rêvé sa vie en couleur à grands coups de crayon mais aussi de billets verts. Mais avant le rêve, c'est une réalité compliquée qu'a dû affronter Oncle Walt, faisant preuve d'une obstination sans borne. Walt Disney est né en décembre 1901 à Chicago, dans une famille d'origine Normande. Au XIe siècle, ses ancêtres ont suivi Guillaume le Conquérant en Angleterre. Le nom Disney est l'anglicisation du mot Disney.
Comme la crème?
Ben oui, le village Disney.
Ah oui, oui.
Ben. En Normandie. Comme la crème, absolument. Mais c'est dans une ferme du Missouri que Walt passe son enfance au milieu des vaches, des poules, des cochons, des canards, qu'il se plaît déjà à dessiner. Il est bercé par les contes de Perrault, de Grimm, d'Andersen, que lui lit sa maman. La famille s'installe à Kansas City pour les affaires d'Elias Disney, un père strict et parfois violent envers ses enfants. En classe, Walt n'est pas très concentré. Il passe son temps à griffonner sur ses cahiers. C'est au lycée McKinley, à Chicago, qu'il publie ses premiers dessins. Il a 16 ans quand il apprend que les États-Unis entrent en guerre. Ni vu ni connu, il se vit d'un an sur son passeport pour devenir ambulancier dans la Croix-Rouge. Frappé par la grippe espagnole, il arrive en France après la bataille. L'armistice a déjà été signé. Il devient chauffeur d'une cantinière qui distribue donuts et crèmes glacées aux blessés. De retour à Kansas City, il fonde à 21 ans son premier studio d'animation. Mais au bout d'un an, c'est déjà la faillite. Déterminé à y arriver sans argent, Walt Disney a dû faire du porte-à-porte avec son appareil photo pour se payer un billet de train. Il rejoint son frère Roy à Hollywood et monte avec lui les studios Disney Brothers. En 1924, grâce à un contrat alléchant avec une société de distribution new-yorkaise, la première série d'animation Disney est lancée. les Alice Comedies, où de vrais humains côtoient des personnages animés, avec Julius le chat et la première apparition de Patty Buller, doublé à l'origine par Walt Disney lui-même, qui détient aujourd'hui encore le record du personnage le plus utilisé dans les dessins animés Disney. Quand le succès d'Alice s'essouffle, il faut un personnage phare qui rivalise avec Félix le chat, qui connaît un immense succès à cette époque-là. Walt Disney a une idée. Il crée avec son ami Hub Iwerks le personnage d'Oswald, le lapin chanceux. Mais nouvelle déconvenue, ils en sont rapidement dépossédés par Universal Pictures, qui en détient les droits et confie le projet à un autre studio. Disney tente alors, tant bien que mal, de vendre un nouveau personnage, sa souris Mortimer. Les refus sont nombreux et la raison souvent la même, une souris sur grand écran risque d'effrayer les demoiselles. Et pourtant, le 18 novembre 1928, au Colony Theatre de New York, le public applaudit à tout rompre devant Steamboat Willie. Ce premier film d'animation sonorisé marque les vrais débuts, après deux courts-métrages passés inaperçus, de son héros Mickey, renommé ainsi sur les conseils de la femme de Disney. C'est un vrai succès. Personne n'avait encore vu un dessin animé parlant. Walt Disney est si fier qu'il en oublie de mentionner son équipe dans les interviews. Vexé, son associé Hub Iwerks le lâche pour fonder sa propre affaire. À partir de février 1934, Walt Disney planche sur un premier long métrage d'animation, Blanche-Neige et les Sept Nains. Les réunions durent des heures et les tensions sont palpables entre Disney et ses guys, son équipe qui l'entoure. La raison d'une discorde parmi tant d'autres, la couleur de la pomme pas assez rouge, pas assez appétissante pour Walt Disney qui perd ses nerfs. Il est odieux, nerveux, mais aussi peu soucieux de la crise financière. Il s'endette auprès des banques. Prévu au départ à 250 000 dollars, le budget frise désormais le million et demi. À Los Angeles, tout le monde commente la folie de Disney. Folie ou génie ? À la première de Blanche-Neige, en décembre 1937, après 3 ans de travail acharné, Walt Disney assiste à la première standing ovation de sa vie. Shirley Temple lui remettra 8 Oscars pour ce film, 1 grand et 7 petits. Hitler lui-même serait fan de la belle princesse. Le Führer regarderait Blanche-Neige en boucle et se serait même amusé à dessiner, prof simplet et timide, des dessins révélés il y a quelques années. Les années suivantes, ces affaires prennent l'eau. Quand Disney met de la musique classique en image avec Fantasia, les gens désertent le cinéma au bout de 20 minutes. Pinocchio n'est pas rentable non plus. Mais de nouveaux projets et de nouveaux cachets le remotivent. Dumbo, Bambi, Cendrillon, Peter Pan, La Belle et le Clochard ou encore La Belle au Bois Dormant cartonnent au cinéma. Alors Disney voit encore plus grand son défi. Matérialiser le pays imaginaire. Pour y parvenir, l'industriel contracte un emprunt sur son assurance vie et vend son ranch de Palm Springs. Une nouvelle fois, il est prêt à tout pour parvenir à réaliser son nouveau rêve. Dimanche 17 juillet 1955, à 53 ans, Walt Disney inaugure au sud de Los Angeles son premier parc d'attractions. Il en fait le tour à bord du petit train avec son ami, le futur président Ronald Reagan. Chou, 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 ils s'amusent comme des petits fous.
On s'y croirait, Stéphane.
Ils ne sont pas les seuls. Tous les chefs d'État en voyage aux États-Unis exigent que la visite du parc soit inscrite à leur programme officiel. Et quand ils n'ont pas ce qu'ils veulent, certains piquent une crise. En septembre 1959, Khrouchtchev, premier secrétaire du Parti communiste de l'Union soviétique, est en voyage aux États-Unis. C'est la première visite d'un dirigeant de l'URSS aux États-Unis. Mais sa visite de Disneyland est annulée pour des raisons de sécurité. Alors il est furax, en pleine guerre froide. Voilà de quoi raviver la colère des Rouges. À 62 ans, Walt Disney réalise enfin son plus grand succès.
Ah.
Un indice ?
Oui.
Supercalifragilisticexpialidocious. J'arrive pas.
Mais personne n'arrive à dire ce mot.
Supercalifragilisticexpialidocious.
Il nous a rajouté un sexe dedans. C'est la patte Stéphane Merle.
Supercalifragilisticexpialidocious. C'est vrai que ce mot trop long est parfaitement atroce. Mais faut le dire.
Alors là, attention Stéphane, parce que ça, c'est toute mon enfance, Mary Poppins.
La charmante et merveilleuse gouvernante de Michael et James Banks. Walt Disney a découvert le roman sur la table de chevet de sa fille 20 ans plus tôt, mais son auteur, Pamela Travers, ne veut pas céder ses droits. Elle n'aime pas le cinéma, encore moins Hollywood, et surtout pas Disney. Le bras de fer s'éternise, mais encore une fois, Disney ne lâche pas. Pamela Travers finit par céder face à l'acharnement, et l'argent aussi, de Walt Disney, à condition qu'on respecte ses directives. Disney n'en a que faire, il a eu ce qu'il voulait. À la première du film, en 1964, où elle vient sans même y avoir été invitée, Pamela Travers s'effondre en larmes.
Oh non!
Et je vous jure, ce ne sont pas des larmes de joie. La morale de cette histoire, à la fin, c'est toujours Disney qui finit par gagner.
Europe 1, historiquement vôtre.
Pour continuer à parler de l'incroyable destin du papa de Mickey, nous sommes avec Pierre Lambert, bonjour.
Bonjour.
Pierre Lambert, vous êtes historien, spécialiste du dessin animé de Walt Disney en particulier. Vous avez publié de nombreux ouvrages consacrés à ces personnages. Mickey, Pinocchio, Bambi, La Belle au Bois Dormant, Blanche-Neige, Le Livre de la Jungle, encore L'Âge d'Or de Walt Disney. L'Âge d'Or de Walt Disney, justement... C'était quand?
L'âge d'or de Walt Disney vraiment correspond à la création de Mickey jusqu'au début des années 40. C'est vraiment cette période-là où là vraiment le succès de Mickey a apporté beaucoup d'argent à Disney, lui a permis de développer la technique et l'art de l'animation et puis de faire surtout son premier long-métrage Blanche-Neige avec succès. Et cet argent de Blanche-Neige, il l'a immédiatement réinvesti dans Pinocchio, Bambi, Fantasia, Dumbo. Voilà, puis la guerre est arrivée évidemment et ensuite les moyens n'étaient plus les mêmes. C'est pour ça que l'âge d'or du dessin animé d'ailleurs en général et de Walt Disney correspond à la fin des années 30.
Pierre Lambert, comme on parle de l'obstination aujourd'hui dans Historiquement Vôtre, pour mesurer à quel point il est obstiné, Walt Disney, au départ ça marche pas tout de suite, financièrement notamment, ça va devenir énorme Walt Disney, mais au départ ça marche pas tout de suite, il va vraiment devoir se battre.
Ah oui, il se bat pendant quelques années, Stéphane a très bien raconté tout à l'heure avec la création des premiers personnages, Alice Comédis, puis Oswald le Lapin que producteur lui pique, mais c'est vrai que dès que Mickey va sortir, le succès va être immédiat. Il faut dire que le studio avait très peu d'employés au départ, c'était à peu près une dizaine de personnes. Et avec le succès de Mickey, très rapidement, il a pu embaucher beaucoup de monde. Et surtout, il a profité de la crise de 1929 pour pouvoir engager des gens facilement et à faible coût. Et surtout, des grands talents, des gens qui n'auraient jamais travaillé dans le dessin animé, qui auraient travaillé dans l'architecture. Et ça, c'est vraiment un des éléments fondamentaux dans l'histoire de Disney et dans son génie d'ailleurs, c'est d'avoir su dénicher tous ces talents.
Oui, mais en même temps, alors parfois, il les utilisait comme Ub Iwerks. Et puis ensuite, ils finissent par le lâcher, c'est-à-dire que je ne sais pas s'il avait un ego surdimensionné ou s'il était assez dur. C'est l'image qu'il donne. Au fond, il aime être seul à la barre.
Alors, c'est vrai, mais en même temps, je vais vous raconter l'histoire d'Ub Iwerks, c'est très intéressant. Ub Iwerks a quitté Disney, en très bon terme avec lui, pour créer son propre studio, espérant que son personnage de Flip la Grenouille ait du succès. Aïe. Et son personnage n'a pas eu de succès, et il est revenu travailler au studio Disney à partir de 1938, et il a été le responsable des effets spéciaux du studio jusqu'à la mort de Walt Disney.
Oui, mais il était dur. J'ai raconté l'histoire de Mary Poppins, et d'ailleurs ça a fendu le cœur de Matthew Noël, avec Pamela Travers, il était plus fort que tout le monde et il usait, il abusait de son pouvoir d'une certaine manière.
Ah oui, il abusait de son pouvoir, mais c'est surtout qu'il abusait du fait qu'il n'y avait pas de concurrence, il n'y avait pas d'autres grands studios, donc les gens voulaient tous travailler chez Disney et ça lui donnait tout pouvoir finalement. Par contre, j'ai eu la chance de rencontrer beaucoup de ces animateurs qui ont travaillé sur ces films et eux étaient très bien payés en réalité. Il y avait une grande disparité de salaire entre les animateurs, les décorateurs, les gens qui étaient importants dans la création des films et puis ce qu'on appelle les petites mains, les traceuses, les gouacheuses qui mettaient en couleur les cellulos, là les salaires étaient beaucoup plus petits.
De tous ces films, est-ce qu'on sait lequel était le plus important à ses yeux? Est-ce qu'il y a un personnage ou un film d'animation qui est pour son trésor, son chef-d'œuvre?
C'est Bambi. C'est incontestablement Bambi. Oui, c'est Bambi. Mais Bambi, il faut dire qu'au niveau artistique et technique, c'est le film le plus parfait de Disney. C'est-à-dire qu'il avait déjà les moyens, l'expérience de Blanche-Neige, de Pinocchio, et il avait encore les moyens financiers de pouvoir aller jusqu'au bout de son rêve. Et donc, Bambi, je pense que c'est au niveau de l'artistique, un des plus beaux films de Disney. Mais c'est vraiment son préféré de très loin.
Pierre Lambert, il y a beaucoup de mystères et de légendes, d'ailleurs, au sujet de Walt Disney. Comment l'expliquer? Comment discerner le vrai du fond, on l'a dit, misogyne, raciste, antisémite, sympathisant nazi. Il y a du vrai dans toutes ces accusations?
Alors écoutez, moi je ne peux pas savoir, évidemment, comme vous, puisqu'on n'était pas là à cette époque, mais il y a une part de faux, ça c'est certain, parce que j'ai eu la chance de connaître Joe Grant, qui était un de ses plus proches collaborateurs, c'est le créateur de la sorcière de Blanche-Neige, de Dumbo, et qui était juif, et qui accompagnait Walt Disney pendant tous ses voyages en Europe. Et j'ai posé la question à Joe Grant, évidemment, il m'a dit jamais de la vie, du temps où il était avec Disney, et ça durait pas mal d'années, il l'a trouvé ni misogyne, ni antisémite.
Ni raciste.
Voilà, ah, oui, ouais, absolument. Voilà, alors bon, après, il y a sûrement une part de vrai, il était vraiment anticommuniste, ça c'est certain.
Oui, oui.
Il était sûrement très réactionnaire, très conservateur, comme beaucoup d'Américains de l'époque, mais voilà, je pense qu'il y a aussi beaucoup de faux dans ce qu'on a raconté, bien sûr. Mmh.
En tout cas, vous venez de publier un très beau livre, Alice au Pays des Merveilles, aux éditions Eugene et Munin, dans lequel vous rendez hommage aux artistes qui, entre 1939 et 1951, ont participé à la création de ce film culte des studios Walt Disney. Pour bien se rendre compte, justement, un projet comme celui-là, c'est combien d'années de travail, combien de dessins, de dessinateurs pour les réaliser, Pierre Lambert?
Alors après, ça dépend des films. Par exemple, sur Blanche-Neige, ils étaient 750 personnes, sur Fantasia, 2000 personnes. Sur Alice au Pays des Merveilles, c'était après-guerre, donc ils étaient moins nombreux. Il y avait à peu près 500 personnes qui travaillaient au studio. La durée de production réelle du film, c'était 2 ans pour un long métrage, que ça soit Cendrillon, La Belle et le Clochard, tous les films qui nous ont enchantés. Mais il y a une préparation, évidemment. Il y a le développement du scénario. Disney participait énormément au scénario. D'ailleurs, c'était une de ses grandes qualités. Et donc, le travail se faisait sur plusieurs années, sur 4-5 ans à peu près en général.
C'est passionnant. Merci Pierre Lambert d'avoir été avec nous. Je renvoie à la lecture de vos livres. Merci beaucoup.
Merci à vous.
Merci beaucoup à vous.
16h-18h sur Europe 1, Stéphane Bern et Mathieu Noël. Historiquement vôtre.
Aujourd'hui dans Historiquement vôtre, on évoque les obstinés de l'histoire. Après Louis Pasteur et Walt Disney, qui ont dû batailler pour imposer leurs idées, vous nous présentez, Mathieu, le portrait, à 99% vrai, d'un obstiné plus proche de nous, un ingénieur anglais devenu la première fortune britannique grâce à une idée à laquelle, à la base, personne ne croyait.
Oui, Stéphane, je vous parle cet après-midi de l'homme qui a révolutionné tout un secteur, James Dyson, devenu en 2 décennies le roi de l'aspirateur.
Qu'est-ce que c'est ?
Alors, un aspirateur, Stéphane, c'est une machine bruyante équipée d'un gros tuyau qu'utilisent vos domestiques le dimanche pour aspirer les grains de caviar tombés sur le marbre de la salle à manger à l'issue du dîner de la veille.
On ne fait pas travailler les gens le dimanche, c'est beaucoup plus cher.
Tu t'es trahi quand même. Un appareil électroménager qui existe depuis 1936 sous sa forme actuelle, mais qui va connaître, vous allez voir, grâce à James Dyson, une révolution technique majeure dans les années 90. À la clé, un aspirateur sans sac qui ne se bouge pas. Comment un type tout seul, sans fortune, qui plus est anglais, a-t-il pu inventer un nouveau type d'aspirateur, déposer le brevet sans se le faire chourer par les ricains comme dans les histoires de Castello-Lopez, et ensuite mettre à genoux Hoover, le géant historique de l'aspirateur? Pour le comprendre, il nous faut remonter le temps, direction le Norfolk des années 50. Oui, c'est fou comme je vois le Norfolk des années 50 exactement comme le Manchester des années 70 hier. James Dyson grandit dans la petite ville de Cromer, loin de l'agitation londonienne. Ses parents sont enseignants et lui-même brillant élève, il faut le dire. Il cartonne dans toutes les matières, du latin au grec en passant par la littérature et la physique. Il agace tout le monde, une sorte de Castello-Lopez roast beef, si vous voulez. Sauf que James, lui, contrairement à David, n'est pas un faillot. Et surtout, il est aussi manuel qu'intellectuel. Après avoir étudié le dessin d'ameublement, il devient ingénieur consultant, il crée sa boîte, il commence par concevoir les meubles d'une crèche, la décoration d'une chaîne de cave à vin, puis il se dit, comme dans les chroniques de David, « Tiens, et si j'inventais un truc ?» Vous savez, tu fais tout le temps ça. Bon, comme pour la première crêpe, la première invention n'est pas la plus réussie. En fait, personne ne comprend à quoi elle sert. James invente le rouleau à eau de jardin. Première invention, premier bide, pas grave. James est un battant. Un jour, en passant la tondeuse, n'oublions pas qu'il est anglais, il peste contre sa brouette qui abîme son précieux gazon. Il traque les trous avec la même obsession que Stéphane dans la pub Gambert.
Il est où le trou ? Mais il est où le trou ?
Ça le rend fou. Il file alors dans son atelier avec cet objectif à la fois dingue et inutile, révolutionner la brouette. Pour que la roue avant de la brouette ne charcute plus le gazon, il décide de la remplacer par un ballon. Ça marche, mais pas commercialement. Deuxième coup dur, avant un troisième, quelques mois plus tard, trahi par l'un des actionnaires de sa boîte, James est viré de sa propre entreprise.
C'est fou.
N'ayant plus de quoi payer une femme de ménage, il se retrouve contraint de passer l'aspirateur lui-même. Et c'est ça qui va le sauver. En pestant contre ces satanés sacs qui se bouchent en permanence, il décide de désosser le bazar pour comprendre ce qui cloche. Et là, Revelation. Le sac est encrassé et il le reviendra toujours, sauf si on inventait un aspirateur sans sac. Mais comment ? Eh bien, pardi, Stéphane, en créant un système de séparation cyclonique pour la poussière. Ça tombe sous le sens. 5127 prototypes plus tard, James Dyson déclare, tel un ricain mal doublé sur une chaîne câblée de télé-shopping, J'étais frustré par mon aspirateur. Il se bouchait rapidement avec la poussière. Sa puissance d'aspiration diminuait. Pour résoudre ce problème, je me suis lancé dans des recherches pour développer un tout nouveau type d'aspirateur. Après plus de 5000 prototypes, je le tenais enfin. Le premier aspirateur qui ne se bouche pas, qui ne perd pas d'aspiration. Alors là, vous allez me dire, c'est la folie. James inonde le marché avec son aspi révolutionnaire. Il engrange les bénéfices, fait péter les dividendes, bascule sa trésor au Panama et sniffe des rails de coke dans le nombril d'escort girl lituanienne. Eh bien non. C'est le bid, the belly, comme on dit de l'autre côté de la Manche. Peut-être était-ce la couleur choisie pour le prototype, le mauve, qui plaît moyen, sauf à sa femme. Les géants de l'électroménager sont d'accord, ça ne marchera jamais. Devant les sceptiques qui lui demandent pourquoi Hoover n'y a pas pensé si c'est une si bonne idée que ça, James a cette répartie magnifique, mais parce que je suis plus intelligent qu'eux. Et son toupet finit par payer grâce à ce peuple qui a le flair pour l'innovation technologique, les Japonais. 1986, l'aspirateur Dyson remporte le prix du Salon du Design à Tokyo, la machine est lancée. 1994, l'aspirateur de Dyson devient le plus vendu de Grande-Bretagne et rapidement, c'est toute la planète qui va se l'arracher. Mais surtout, ce qui est absolument génial, c'est que ça fait déjà une dizaine d'années qu'il n'est plus le directeur de Dyson. Il s'est auto-rétrogradé au statut de chef ingénieur afin de garder les mains dans le cambouis à la recherche de nouvelles inventions. À ses collaborateurs, il répète souvent que, je cite, « Si Henry Ford avait écouté des consultants, il aurait élevé des chevaux plus rapides pour tirer les voitures au lieu de fabriquer des automobiles. » Voilà pour mon portrait à 99% vrai de James Dyson, qui, vu que j'ai soigneusement évité de parler de son expatriation fiscale à Singapour, serait bien inspiré de m'envoyer le dernier V11 Cyclone Absolute spécial parquet ciré. Comment ça, fuck you? Demain, je vous fais la deuxième partie sur l'exit fiscal à Singapour. Non, mais on m'achète pas, moi, monsieur.
Ouais, tu parles.
Merci beaucoup,
oui, on
Mathieu.
On peut m'acheter avec un V11 Cyclone assez rapidement.
99% vrai, donc il y a un peu de faux quand même.
Non, tout est vrai. C'est vraiment, lui, un battant, je dirais encore plus que Disney. Oui. Il a encore plus galéré au début.
Merci beaucoup.
Europe 1, historiquement vôtre.
Nous abandonnons nos personnages du jour. Ah, oui. Nous entrons dans la dernière demi-heure d'historiquement vôtre. Celle où le passé nous raconte notre quotidien.
Oui, Stéphane, et Dieu sait que notre quotidien, c'est évidemment chaque matin un petit pain perdu. Le pain perdu aussi a droit à l'accordéon. Tout ce qui est traditionnel et vieux.
Voilà, bah, c'est pas ringard le pain perdu,
c'est
au contraire, c'est
à la mode.
Très moderne.
Notre quotidien, c'est également tous ces mots qu'on emploie tous les jours sans forcément les comprendre ou en connaître l'origine. Ça, c'est votre domaine, Stéphane.
Oui, oui, avec toutes ces règles sanitaires, ce sont des règles drastiques. Mmh. On dit aussi des règles draconiennes. Et d'où viennent ces expressions?
Je n'en ai aucune idée et je vois dans les yeux
vous
de
vous connaissez M. Dracon? Je pense que je l'ai eu il y a longtemps, je ne sais plus. Non, je ne connais pas.
On va faire connaissance à M. Dracon.
Oui. Il a botté en touche, c'est David Castello-Lopez qui lui nous emmène aux origines d'un objet ou d'une invention. Aujourd'hui, une invention un petit peu tirée par les cheveux.
Tout à fait, c'est vrai qu'il y a des sons comme ça qui marquent une époque. Celui dont on parle aujourd'hui, c'est vraiment très lié aux années 80. C'est un peu comme le clavecin pour la musique baroque ou certains sons de guitare électrique pour les années 60. On l'a écouté tout à l'heure ce son, on va le remettre, le voici.
Voilà. Mais on dirait un son de suspense aussi dans une mauvaise série.
C'est vrai, un petit peu. Utilisé tout seul, ça fait un peu ça. Mais donc ce son, il s'appelle l'orchestraïte, le coup d'orchestre, si vous voulez. Et il est absolument partout, hein, comme je disais, dans la musique des années 80-90. Je vais vous le prouver en vous faisant écouter un certain nombre de morceaux que vous connaissez sans doute. Ils ont été compilés par la journaliste Estelle Caswell du site Vox aux États-Unis qui a fait une enquête sur l'orchestraïte. C'est parti.
Michael Jackson, Dangerous. Eurythmics. Le groupe Yes. Janet Jackson.
C'est comme un petit klaxon.
Exactement. Et ce qui est assez fou, c'est que depuis quelques années, il y a un peu un revival de la musique des années 80. Et du coup, on recommence à entendre l'orchestraïte partout. Par exemple, dans ce morceau de Bruno Mars.
Bah, on l'entend bien.
On l'entend super bien au début, quoi. Mais alors, d'où vient ce son et pourquoi tous les musiciens ont commencé à le foutre partout? Alors, il y a pas mal de orchestra hits différents, des légères variations si vous voulez, mais celui qui a lancé la mode, eh bien, c'est Igor Stravinsky. Stravinsky, on connaît souvent son nom, mais contrairement à Mozart ou Beethoven, c'est assez rare que les gens puissent citer un de ses morceaux. Mais ceux qui peuvent, généralement, c'est toujours le même, c'est L'Oiseau de Feu, qui est la musique d'un ballet qui a été joué pour la première fois à Paris en 1910, et en particulier un passage de ce ballet qu'on appelle La berceuse de l'Oiseau de Feu. Je vous fais écouter les premières notes, attention.
Mais non, ils ont carrément samplé le...
Est-ce que vous avez entendu le premier son?
Ben oui, c'est un orchestre.
Exactement. Et alors, bon, pour ceux qui connaissent la berceuse de l'Oiseau de Feu, j'ai coupé une mesure pour rapprocher l'orchestre.
Ah, encore une filouterie de David.
Mais voilà, on va réécouter le son tout seul. Voilà. hein. Eh bien, le premier orchestre à hit, c'est celui-ci. Mais alors, du coup, la question, c'est comment est-ce qu'il s'est retrouvé dans toutes les chansons des années 80, vu que c'est un truc de 1910 de Stravinsky? Eh bien, à cause d'un monsieur australien qui, au milieu des années 70, a inventé le Fairlight. Le Fairlight, c'est le premier sampleur grand public, on pourrait dire, de l'histoire. C'est-à-dire une machine avec laquelle vous pouvez enregistrer un son de la vraie vie, n'importe lequel, assigner ce son aux touches d'un clavier et le jouer ensuite avec les touches du clavier autant de fois que vous voulez, à la hauteur que vous voulez. Le Fairlight, c'était donc la première machine qui pouvait faire ça, et il était livré avec une grosse disquette qui contenait 50 sons préenregistrés. Et l'un de ces sons, c'était l'orchestra hit de Stravinsky. Et donc, tous les chanteurs un peu branchés électroniques des années 80, ils se sont retrouvés avec la même disquette et les mêmes sons, et ils l'ont utilisé. Le premier tube à l'avoir utilisé, c'est Planet Rock de Afrika Bambaataa en 1982. Bam, vous allez le voir, il est quelques fois. Et tout le monde a commencé à le copier avant qu'il soit repris aujourd'hui par les chanteurs nostalgiques comme Bruno Mars. Donc, si vous voulez, l'orchestre hit, c'est un son assez émouvant puisqu'il fait le lien entre l'époque de Stravinsky, c'est-à-dire les années 10, l'époque de Michael Jackson, c'est-à-dire les années 80-90, et l'époque de Bruno Mars, c'est-à-dire aujourd'hui.
Mais là où ça fait un terrible coup d'œil, c'est moi quand j'entends Bruno Mars, je vois pas du tout que c'est un hommage nostalgique ou quoi que ce soit. J'ai l'impression que c'est hyper moderne parce que pour moi, c'était moderne comme Michael Jackson était moderne quand j'écoutais quand j'étais jeune. Donc, on est vraiment.
Et même pas tout ça, c'est 1910, vous voyez.
Ouais. 1910, c'est fou. Ah, j'ai appris des choses. Merci David Cassel-Lopez. On retrouve les origines en podcast sur toutes les applis audio et sur le site europe1.fr.
Ah non, ça me fait peur ce son, hein, oui. Je vous le dis. Dans une musique, c'est dansant, mais seul, ça fait peur. David, pour vous récompenser, que diriez-vous d'un petit pain perdu?
Ah, oui.
Olivier Poulsimé nous raconte d'où ça vient et comment le préparer avantageusement et même de manière salée.
16h-18h sur Europe 1. Historiquement vôtre.
C'est le moment gastronomique de l'émission, le moment des plus grands scoops dans Historiquement vôtre, une séquence toujours pleine de rebondissements.
Mathieu, vous prenez de la pâte à tartiner.
Oh, qu'est-ce un hit ? Celle de.
Bah oui, c'est Olivier, vrai que ça fait peur.
Ça fait peur, on est d'accord, ce truc-là, ah ouais, ça sert à faire une virgule
vous,
de peur.
La pâte à tartiner. Ah. Mais là, on va parler d'un autre dessert habituel.
Oui, un dessert, normalement, c'est un dessert.
C'est un dessert, le pain perdu, mais là, Olivier. On peut l'avoir sous une forme salée.
Ouais, je vous ferai un petit cadeau en vous donnant une recette salée, mais à l'origine, c'est bel et bien un dessert, et c'est probablement l'un des plus vieux desserts de la gastronomie connue, puisque la première mention remonte au 1er siècle avant Jésus-Christ.
Ah oui.
Le grand gastronome et cuisinier de l'époque, Apicius, qui avait consigné quelques-unes de ses recettes, parle déjà de cette création. Alors, il s'agissait de pain rassis, donc c'est vrai que le pain, quand une fois qu'il a séché, on sait plus trop bien à quoi en faire, soit on a fait des biscottes ou de la chapelure, ou ben on le trempe dans du lait et ensuite ben on le met dans l'huile. C'était la première recette. C'était un pain qui a été humecté dans du lait et ensuite frit et qu'on arrosait de miel. Ensuite, on va parler au XIIIe siècle de pain ferré. C'est à peu près la même chose. La mention pain perdu, elle arrive un peu plus tard, probablement vers le XIVe, XVe siècle. On comprend très bien, le pain, il fallait pas le perdre, ce fameux pain qu'on allait jeter. Puis aux grandes époques de famine, il fallait pouvoir le réutiliser. C'était un plat pauvre à l'origine, mais c'est un plat qui va très vite arriver à la table des rois aussi, puisqu'on dit que Henri IV en était particulièrement friand. Et donc ce plat pauvre finit par devenir un peu plus aristocrate. Puis surtout, en plus du lait, on va rajouter des œufs.
Et n'oubliez pas une chose, si je puis me permettre, c'est que le pain, même quand il devient un peu dur, est très difficile à mâcher on n'est plus dedans.
Et ces rois n'étaient pas.
Et voilà, ils avaient le palais, si je puis dire, un peu abîmé. Je parle de ce qu'il y avait dans
la cavité buccale.
La cavité buccale, pas de leur palais royal. Et donc, et ensuite, le pain perdu cuisiné.
Il se mangeait plus facilement.
C'est plus mou.
Exactement. Après, il va partir dans le monde entier, puisqu'on en trouve partout. Il arrive en Angleterre au XVIIe sous le nom de French Bread, d'ailleurs.
Et qu'on a du French Bread.
Eh bien, alors, petite parenthèse, French Bread ne veut pas dire pain français.
Comment ça?
Tout comme French Fries ne veut pas dire frites françaises. En fait, ça vient apparemment du vieil irlandais, et tout French en vieil irlandais veut dire tranché.
Et ça marche aussi pour les French fries.
Exactement. Mais des pommes de terre tranchées.
Oui. Vous le saviez ça, Stéphane?
Oui, absolument.
Vous savez tellement de choses.
Je le savais.
Et le pain perdu, c'est donc le pain qu'on avait tranché, et c'est pas forcément un hommage à notre gastronomie française. Alors, la recette traditionnelle sucrée du pain perdu, je vous la donne rapidement avant de vous en proposer une salée. Du pain évidemment rassis. Alors la grande mode actuellement dans les restaurants un peu branchés, c'est de pas utiliser du pain mais de la brioche, c'est plus chic. Mais il faut aussi qu'elle soit bien rassis parce que sinon elle se décompose au moment de la cuisson. Pour 4 belles tranches de pain, 2 œufs, quelques cuillères à sucre de sucre vanillé, un petit peu de lait, on imbibe le tout et puis on le cuit dans une poêle bien chaude avec de la matière grasse. Alors moi j'aime bien en faire une version salée et tout simplement je vais remplacer le sucre vanillé par du fromage râpé. Et on va avoir c'est très différent mais on va
ça doit pas être mauvais hein.
Non, on va avoir plat, un pain qui va croûter, qui va garder l'idée du pain perdu. Donc on utilise du pain rassis, il va se détendre dans le lait, dans l'œuf et puis
vous l'avez déjà testé.
Je l'ai déjà testé.
Vous avez des idées puis vous l'avez pas testé.
Et surtout le fromage va apporter un côté grillé et croustillant, gratiné, qui est vraiment intéressant et qui donne une texture un tout petit peu plus croquante. Et on peut utiliser différents types de fromages. Bon, moi, j'aime bien le faire avec du comté, par exemple.
Le mec vient d'inventer la croûte au fromage, qu'on connaît à Genève depuis deux millénaires. Le mec a inventé la croûte au fromage, il appelle ça un pain perdu
au fromage.
C'est une sorte de croque-monsieur mouillé.
C'est un croque-monsieur mouillé, dans lequel il n'y a pas de jambon, quand même.
Oui, d'accord. Écoutez, merci Olivier Pouls. On peut retrouver toutes vos recettes sur le site d'Europe1.fr.
Sublime, tout en couleur, qui va vous faire aimer l'an 2000. Comme Stéphane Bern, qui chaque après-midi ponctue cette émission d'un solo magistral, sa chronique, le mot de la fin. Chaque jour, l'histoire d'un mot ou d'une expression. Aujourd'hui,
dracon. Nous allons prendre des mesures draconiennes. D'où ça vient?
Ça, j'en ai aucune idée. Ouais.
16h, 18h sur Europe 1.
Historiquement vôtre.
Chaque jour, Stéphane, vous m'aveuglez avec votre culture, et notamment votre culture du français, notre belle langue de Molière, vous la connaissez par cœur. Chaque jour, l'origine d'un mot, d'une expression, c'est avec vous. Draconien.
Alors là. Oui, alors, attendez, je goûte un peu d'abord la flatterie, parce que.
Vous avez fait du bien. Ce moment, hein, ça fait du bien.
Savez, on a eu un truc, un dessert salé, d'abord une fois qu'il y a une petite sucrerie, j'en profite. Alors, draconien, d'où ça vient? Quand une situation devient périlleuse, on prend des mesures draconiennes. Pas besoin d'expliquer, je crois que ces derniers mois, on a vu de quoi il s'agissait. Mais d'où viennent ces mesures draconiennes? Et enfin, et surtout, d'où vient cette expression?
Alors, je vous ai posé la question tout à l'heure, au début de notre émission, est-ce que dracon vient de dragon?
Je me demande si c'est pas le contraire, plutôt. Mmh. Vous n'êtes pas totalement dans l'erreur non plus. En effet, draconien vient en fait de dracon. Qui était Dracon? Dracon était un législateur athénien qui s'est fait connaître en 621 avant Jésus-Christ pour avoir pris des lois d'une extrême sévérité. Dracon s'écrivait alors avec un K et cela désignait en grec serpent. Et c'est vrai que ça a donné aussi dragon.
Tout est lié en fait.
Tout est lié. Dracon, avec un K, était donc d'une extrême dureté. Rendez-vous compte. Non seulement le vol devenait souvent passible de mort, ce qu'il faut bien admettre n'est pas très cool, mais en plus, pour la première fois, les lois étaient gravées sur des stèles en bois, accrochées dans les ruelles, à la vue de tous. Ainsi donc, l'expression « nul n'est censé ignorer la loi ». Petit exemple de sévérité, même des vols de légumes étaient passibles de la peine capitale. Quand on sait qu'il en faut 5 par jour, on imagine aisément la dureté des lois de Dracon. Son nom est passé à la postérité. En Allemagne, on dit « draconisch ». En anglais, draconian. En italien, draconiana.
Plus on va vers le sud, moins vous êtes bon en accent.
Oui. Au Portugal, on va préférer drastique. Drastique, cela vient du grec « drastikos ». Qui signifie, non pas dur, mais efficace. Alors,
pourquoi ce regard pervers à David Castello-Lopez?
Parce qu'il est portugais.
Ah oui, d'accord.
Les portugais sont plus...
sont durs qu'efficaces.
Sont plus...
plus durs.
Plus efficaces que durs.
Plus efficaces que durs.
Oui, c'est ça que je voulais dire.
Mais l'un va avec l'autre, d'habitude, je ne comprends pas.
Alors, non, est-ce qu'une mesure draconienne est forcément efficace? Eh bien, un vaste débat dans lequel je ne me risquerai pas de plonger avec vous.
En belge, il n'y a pas d'équivalent. Vous n'êtes ni dur,
non,
ni efficace.
Non, nous, on est laxiste.
Vous êtes laxiste. Voilà, comme ça... On n'est fâché avec personne. Un nouveau numéro d'Historiquement Vôtre s'achève. Nous rendions hommage aujourd'hui aux obstinés de l'histoire, ces têtes de mule qui ont osé et pour qui ça a payé.
De Louis Pasteur à Walt Disney, en passant par James Dyson, lequel de ces obstinés vous a le plus épaté, Mathieu?
David Castello-Lopez, très clairement. Ah oui. Rien ne le prédisposait à devenir une star, un espace interbuco-nasal trop important, un côté faillot qui le désavantageait avec les filles, un amour suspect pour la pizza à l'ananas, et pourtant il a fait tout ce chemin vers les cimes de l'audiovisuel. Je suis sûr qu'il ira loin. Je sais pas où, mais loin.
Bah déjà, demain, il ira à Europe 1.
C'est
parce qu'on le retrouve pour un nouveau numéro d'Historiquement Vôtre au programme
J'ai deux amours.
Ouais, je sais, en ce qui vous concerne, Dash et Mirza, vos deux chiens avec qui vous avez passé votre anniversaire.
Oui, mais là, on ne parlera pas d'eux. J'ai deux amours, c'est le thème de notre émission consacrée aux amours multiples. Cléopâtre a eu deux amours, mais à la suite. Henri II aussi, mais en même temps. C'est le en même temps déjà à l'époque. Catherine de Médicis et Diane de Poitiers.
Et Hélène de Fougerolles, elle a eu plein d'amours en même temps, beaucoup plus que deux.
Ah oui, pourquoi vous parlez d'elle?
Parce que c'est mon personnage, l'ambassadrice du polyamour. Vous n'avez pas vu ça, Stéphane? Il faut vivre avec votre temps, Stéphane. Ah oui, on a plus un, deux, trois, quatre. On a plein de partenaires, c'est le polyamour. Et ça n'a rien de sexuel.
En même temps,
ça n'a rien du tout de sexuel.
Je crois qu'elle était
ça
avec.
Ça a un petit peu de sexuel, rassurez-vous, David, vous pouvez venir demain.
Dit, ah oui. Elle est assez logique parce qu'elle est avec. Je crois qu'elle est avec le fondateur de Mythique, c'est ça?
Elle est entre autres, probablement.
Entre autres, il y en a d'autres.
Avec Marc Simoncini. Oui,
ah non, mais c'est déjà. Gérer une relation, c'est compliqué.
Et j'essaierai de vous expliquer à travers elle, j'ose dire. Oui. Que c'est beaucoup plus simple en fait quand
de
on multiplie
quand on
exactement.
Plusieurs.
Il faut que tout le monde soit d'accord. Attention, oui. David, n'allez pas
mais
faire n'importe quoi.
Un tableau Excel pour les,
oui,
les
c'est
rendez-vous.
Mieux, c'est mieux. C'est mieux.
Bon, en tout cas, vous avez l'art, Mathieu, de me donner envie d'être déjà à demain pour savoir comment on fait pour avoir du pluriamour.
On paye.
Retrouvez Historiquement Vôtre tous les jours de 16h à 18h sur Europe 1 et en podcast sur Europe 1.fr.